comme les brillants entrepreneurs, épargnez chez Suno Assurance pour garantir le financement de vos projets. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Près de 80 millions de personnes concernées sur la planète. Et pourtant, demandez autour de vous d'expliquer, de définir ce qu'est un glaucome. À moins d'être directement concerné, eh bien très peu de personnes en sont capables. Le problème, c'est que longtemps, le glaucome ne provoque ni gêne ni douleur. Maladie insidieuse, évolutive, qui nécessite un traitement et des contrôles au long cours. Le glaucome, cette maladie oculaire qui conduit à la dégradation progressive, voire à la destruction du nerf optique, pathologie grave, elle affecte le champ visuel, elle peut rendre aveugle, puisque selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est la troisième cause de cécité dans le monde, d'où l'importance du traitement. Mais avant cela, importance du dépistage, de la connaissance des facteurs de risque et des symptômes du glaucome. Questions, témoignages sur le glaucome, on les attend bien sûr sur la page Facebook de notre émission et à notre numéro de téléphone 33 84 22 75 75. La semaine mondiale du glaucome, c'est jusqu'au 16 mars. Professeur Jean-Philippe Nordmann, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en studio. Vous êtes chef de service d'ophtalmologie au Centre national d'ophtalmologie des 15-20 à Paris, directeur du Centre du glaucome. On retrouvera tout à l'heure en ligne du Cameroun, professeur Assumpta Bella, chef de service d'ophtalmologie de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé. Le professeur Bella qui est également coordinatrice du programme national de lutte contre la cécité. En fin d'émission, notre chronique sport, ce sera bien sûr avec le docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo.
Priorité santé sur RFI.
Et avant de vous retrouver pour parler du glaucome, nous allons donner la parole à un autre spécialiste de la santé oculaire. Nous sommes en effet en ligne avec le professeur Bahram Bodaghi. Bonjour professeur.
Bonjour.
Vous êtes chef des services d'ophtalmologie de la Pitié-Salpêtrière et de l'hôpital Avicenne, professeur des universités, praticien hospitalier à Sorbonne Université. Alors, si on vous retrouve aujourd'hui dans Priorité Santé, c'est parce que vous faites partie des signataires de la lettre des ophtalmologues, lettre adressée au président de la République Emmanuel Macron. Ce que vous dénoncez, professeur, c'est une épidémie de blessures oculaires gravissimes à l'issue de toutes ces manifestations ces dernières semaines en France, dans plusieurs villes du pays, dans le cadre du mouvement de contestation des Gilets jaunes. Quel type de lésions ont été constatées de la part des ophtalmologues?
Mais écoutez, sur le territoire, l'enquête épidémiologique que nous avons menée a permis de colliger deux types principalement de blessures. Vous avez d'un côté des blessures oculaires isolées, qui peuvent être soit des plaies, donc avec des sutures à faire, que ce soit au niveau de la partie antérieure de l'œil et parfois un peu plus en arrière, avec des lésions que vous pouvez imaginer, soit des lésions à globe fermé. Donc cette fois-ci, il peut s'agir d'œdèmes au niveau de la rétine, des lésions au niveau de l'iris, du cristallin. Donc ça, ce sont le spectre des lésions au niveau oculaire isolé, mais il y a aussi des lésions qui sont plus complexes, associées à des fractures de l'orbite, des lésions faciales et puis même parfois plus rarement des lésions neurochirurgicales, et pour les réparer, les prendre en charge, on a besoin d'équipes multidisciplinaires.
Alors voilà pour la description de ces blessures, professeur Bodaghi. Maintenant pour ce qui est d'une approche quantitative, est-ce que vous avez des chiffres?
Alors les chiffres, étant donné qu'il s'agit d'une étude scientifique menée auprès de l'ensemble des collègues, nous les réservons à notre ministre de la Santé pour pouvoir lui fournir ces chiffres, étant donné que l'objet de cette lettre initialement était d'alerter C'est vraiment une fonction principale pour nous, une priorité principale, d'alerter nos autorités de tutelle, leur fournir les chiffres, et bien sûr, après, les décisions qui sont prises sont les décisions politiques. Mais de notre côté, c'est simplement une démarche humaniste, tout à fait apolitique, et une démarche d'alerte.
Malgré tout, derrière, il y a une demande qui concerne l'utilisation des armes qui sont responsables de ces lésions oculaires.
Alors, les blessures remontent avant le mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire que nous avons demandé aux collègues de faire remonter les chiffres et les incidents avec les complications depuis plusieurs années, et certaines de ces lésions remontent à 2014 ou avant 2014. Après, il est sûr qu'avec le mouvement des Gilets jaunes, le nombre nous a paru devenir plus important. C'est pour ça qu'on a lancé cette alerte. D'ailleurs, il y a une cellule de veille qui est toujours active au niveau de la Société française d'ophtalmologie pour répertorier d'autres cas qui pourraient être pris en charge dans les différents services de CHU.
Alors, il y a un mot qu'on n'a pas encore prononcé, c'est l'expression, justement, le nom de cette arme, lanceur de balles de défense, LBD. On en entend pas mal parler dans le cadre des journaux d'actualité. Il y a aussi des enquêtes officielles qui ont été lancées. C'est ce qu'a d'ailleurs dit le secrétaire d'État à l'Intérieur. 83 enquêtes en cours. Il y a un certain nombre de cas enregistrés. 2200 manifestants blessés au total, bien évidemment pas tous au niveau des yeux. Vous avez envoyé votre lettre le 6 février, professeur Bahram Bodaghi. Est-ce que vous avez obtenu une réponse depuis ?
Écoutez, nous avons bon espoir depuis que la publication a été faite dimanche. Nous avons bon espoir de rencontrer prochainement notre ministre, Madame Buzyn. Et donc, ça serait pour nous l'occasion de lui présenter ces chiffres. Après, comme je vous dis, c'est simplement des statistiques qui ont été évaluées sur l'ensemble du territoire, et ce sera évalué par notre ministre qui transmettra. Et on espère que ce sera pris en compte par les autorités.
Merci infiniment pour toutes ces précisions, professeur Bahram Bodaghi. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes chef des services d'ophtalmologie de la Pitié-Salpêtrière et de l'hôpital Avicenne de Bobigny. RFI. Retour donc en studio avec vous, professeur Jean-Philippe Nordmann, à l'occasion de cette semaine mondiale du glaucome. Alors, on va commencer, comme on dit toujours, par le début. Les chiffres, données épidémiologiques au niveau planétaire, ça se compte en plusieurs dizaines de millions de personnes concernées, professeur Nordmann. Et comment on explique justement qu'il y ait tellement de personnes qui souffrent de glaucome et si peu de personnes qui, en fait, s'inquiètent avant que la maladie soit là et bien installée?
C'est certainement lié au fait que le glaucome ne fait pas mal déjà et ne trouble pas la vue. Donc a priori, quand on a pas mal à l'œil et qu'on voit bien, on ne s'inquiète pas. Simplement, le glaucome débute par un excès de tension dans l'œil qui peu à peu réduit le champ visuel, c'est-à-dire l'extérieur de la vision, sans gêner la vision devant soi. Donc pendant très longtemps, tout va bien. Et c'est seulement quand la partie centrale de la vue qui est touchée que les gens ont tendance à avoir peur, et donc s'inquiètent et vont voir leur médecin. C'est le contraire de la cataracte, hein. La cataracte, c'est simple, tout de suite on voit moins bien, donc on se dit ça va pas, on va voir l'ophtalmologiste assez rapidement.
Et les effets sur la vision, on parle de cécité bien sûr dans le cas le plus extrême, mais avant cela, on voit moins bien?
Et non, on ne voit pas moins bien pendant très longtemps, parce que, en réalité, quand l'extérieur du champ visuel est touché, on bouge beaucoup les yeux, les deux yeux ne sont pas touchés de la même façon, donc finalement, au fond, on n'a pas cette impression-là. En revanche, quand on fait des examens complémentaires, en particulier l'examen du champ visuel, où on analyse précisément la situation, on voit très bien le déficit et on voit très bien s'il progresse ou non.
Donc c'est important de dire comment se faire dépister, professeur Jean-Philippe Nordmann. Déjà, ça ne se passe pas chez un généraliste.
Non. Le généraliste ne peut pas lui-même faire le point. En fait, pour se faire dépister, il faut aller voir son ophtalmologiste et certainement au moins une fois, même si on n'a aucun antécédent dans sa famille, autour de 50 ans pour voir où on en est, l'ophtalmologiste va mesurer la pression oculaire et va voir si celle-ci est normale ou pas normale. Et en fonction de ça, il va avancer. Mais attention, quand même à peu près dans un tiers des cas ou un quart des cas, la pression peut ne pas apparaître excessive au moment de l'examen. Et donc, il faut faire quelque chose de plus. Juste un contrôle, l'ophtalmologiste le fait en regardant lui-même durant l'examen le nerf optique. Donc il suffit pas d'aller à un endroit qui vous proposera une mesure gratuite de la pression oculaire pour dire tout va bien, ma tension est normale. Il faut d'une part vérifier la tension, premier risque, et puis quand même vérifier qu'il n'y a pas d'atteinte au niveau de l'œil.
Et une fois justement que ce diagnostic est posé, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'il y a comme option thérapeutique ?
Une fois que le diagnostic est posé et qu'on pose finalement en faisant l'examen clinique et puis aussi deux examens complémentaires à l'heure actuelle, le champ visuel et l'OCT le plus souvent, eh bien il y a énormément d'armes thérapeutiques. En général, on commence par un traitement par collyre. Alors, le problème, c'est un peu comme dans le diabète ou l'hypertension, ben, il faut poursuivre ce traitement toute sa vie. Et puis, si ça ne suffit pas, on peut associer des collyres. Si ça ne suffit toujours pas, souvent on passe au laser. Et puis, la dernière étape, c'est l'intervention chirurgicale. Donc, on a vraiment, vraiment des moyens d'empêcher que les choses s'aggravent. Et c'est, ça, c'est tout le sens d'un dépistage précoce. C'est que réellement, on a la possibilité de traiter la maladie.
Quand on dit dépistage précoce, vous avez cité ces 50 ans. Mais pour certaines personnes, professeur Nordman, il faut peut-être s'y prendre un petit peu plus tôt. En fonction, par exemple, de l'hérédité ?
Absolument. Alors, il y a des situations particulières, comme le glaucome du jeune, qu'on appelle le glaucome juvénile, qui peut commencer à 25 ans. Donc là, à ce moment-là, il faut faire des contrôles un peu plus tôt, même certainement beaucoup plus tôt. Puis, des situations avec des antécédents importants dans la famille de glaucome qui sont survenus de façon précoce, ou quelqu'un fortement myope. Donc, il y a des situations un peu particulières. Je voudrais juste revenir sur un petit point. Nous parlons de ce qui est le plus fréquent, le glaucome à angle ouvert, le plus fréquent en Europe et en Afrique. En Asie, c'est une autre forme de glaucome qui existe, c'est le glaucome à angle fermé, et là ça donne des à-coups violents de tension dans l'œil, avec des douleurs et une vue qui est troublée et qui passe.
De façon précoce, tôt dans la maladie ? Ça se ressent plus tôt.
Ça commence
là,
comme
ça. Là, il y a des vrais symptômes.
Il y a des vrais symptômes.
Et ça, c'est tout simplement en fonction de la forme de l'œil. C'est ça qui l'explique.
Exactement. C'est la forme de l'œil. C'est à l'intérieur de l'œil, pour certaines raisons, une structure dans l'œil qui s'appelle l'iris, qui vient coincer la sortie, puis qui s'en va et qui se décoince. Et ça arrive quand même encore aussi chez nous, ici, je veux dire, en Europe ou en Afrique, chez peut-être 10-15% des patients. Donc il y a 10-15%, ils auraient des signes. C'est le glaucome à angle fermé. Et en Asie, c'est 80% des patients. Donc les patients d'origine asiatique n'ont pas tout à fait le même profil. Je reviens au fait que la plupart du temps, bon, c'est l'autre, c'est le glaucome à angle ouvert où il n'y a pas vraiment de signes.
Très bien, on va justement écouter les questions des auditeurs. Ils sont déjà nombreux au téléphone de Priorité Santé. On passe tout de suite justement à toutes ces questions.
Priorité Santé sur RFI.
Et notre premier auditeur nous appelle du Congo Brazza, de Brazzaville précisément. C'est Paul Blaise. Paul Blaise, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, le professeur Nordman vous écoute.
Oui, en fait, comme je l'avais écrit au départ, que ma mère souffre du glaucome à angle ouvert, ça fait bientôt 9 ans qu'elle est dans ça. Alors ma question était de savoir, est-ce que c'est héréditaire ?
Aujourd'hui, est-ce que votre mère voit ? Est-ce qu'elle a des problèmes importants ?
Malheureusement, ça a commencé, elle ne voit pas les yeux noirs. C'est dans notre cas parce que ça a commencé par le droit et puis elle a fait un AVC et puis un jour, c'est complètement dans l'obscurité.
Alors, la ligne n'est pas bonne du tout, Paul Blaise. Ce qu'on a donc compris, c'est que votre maman n'y voit plus du tout. Et votre question, justement, puisque vous, pour l'instant, vous n'avez a priori pas de problème de vue, c'est de savoir si vous risquez d'être concerné. Professeur Jean-Philippe Nordman, on a répondu partiellement à cette question de l'hérédité tout à l'heure, mais c'est important de le dire et de le redire.
Oui, bonjour Paul Blaise. Alors en effet, il y a beaucoup de facteurs familiaux. Si votre mère a un glaucome, il y a de fortes chances que vous en ayez un. Mais en fait, à l'âge où elle l'a eu. C'est-à-dire que de temps en temps, si on a un parent qui a, je ne sais pas, 60 ans, soi-même on a 20 ans, ça ne veut pas dire qu'on va l'avoir maintenant. On risque de l'avoir à l'âge de la cinquantaine lorsque elle l'aura eu. Donc c'est certain qu'il faut faire un contrôle soigneux. Le glaucome est une maladie fréquente et particulièrement en Afrique. C'est une caractéristique et avec des yeux peut-être au plus susceptibles à cette maladie-là. Donc certainement, il faut faire un contrôle.
J'ai une autre question, professeur Jean-Philippe Nordman. Elle va peut-être vous paraître un petit peu aberrante. Quand on a perdu la vue, est-ce qu'on se traite encore pour son glaucome ?
Si on a totalement perdu la vue, c'est-à-dire qu'on n'a même plus de vision, on ne traite le glaucome que si l'œil fait mal à cause de l'excès de tension. Sinon, honnêtement, il ne va pas bouger et donc on peut le laisser tel quel.
La vue est perdue.
La vue étant totalement perdue, on ne peut pas revenir en arrière, malheureusement.
Voilà, Paul Blaise, pour ces réponses du professeur Nordman. Est-ce que vous avez une question complémentaire ?
Oui, je voulais demander la tension normale à combien oculaire ?
Une tension normale, professeur Jean-Philippe Nordman, il y a justement comme ça des chiffres, comme quand on parle de tension artérielle ?
Oui. Alors, dans la population générale, la tension normale, c'est 15. Et on considère en général que quand on dépasse 20, il y a lieu de s'inquiéter.
Voilà pour ces indicateurs chiffrés. Très bonne journée à vous à Brazzaville, Paul Blaise. On va partir tout de suite pour le Gabon, pour la ville de Ndiolé, où l'on retrouve Christophe. Bonjour Christophe.
Bonjour madame.
Bonjour, vous écoute. Professeur. Le professeur vous écoute.
Oui. Voilà. En 2003, j'ai été déclaré glaucomateux. Et depuis cette date, je suis sous collyre. J'ai même suivi un soin au laser. Bon, malgré cela, rien ne s'améliore. Bon, j'ai déjà consulté 12 spécialistes. Parmi les 12, il y en a qui me proposent une intervention chirurgicale. Sur le reste, il la rejette. Donc, d'autres spécialistes ne veulent pas entendre parler de l'intervention chirurgicale pour deux raisons. La première raison, c'est par rapport à mon âge. J'ai 55 ans. Et la deuxième raison, ils disent que le type négro-africain fait un rejet quand on opère un peu plus tôt. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'ils appellent la cicatrisation qui risque de totalement réduire la vue à néant. Voilà, donc je suis face à ces deux écoles-là. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. C'est pour cela que je voudrais poser deux questions au professeur. Mm-hmm. D'abord, en quoi consiste cette intervention chirurgicale ? Mm-hmm. Deuxièmement, est-ce qu'il n'y a pas un autre traitement en dehors des trois premiers que je viens de citer, là, c'est-à-dire les collyres, le laser, l'intervention chirurgicale ? Question bonus au professeur, quel conseil peut-il me donner par rapport à tout ce que je vis là. Parce que là, je ne vois plus rien, je ne conduis plus. En fait, je vois, mais la vue est floue. Je ne conduis plus, je ne peux plus travailler sur ordinateur. Se balader la nuit, ça devient pratiquement un mini-suicide. Alors, quel conseil le professeur peut me donner ?
Il va vous répondre tout de suite, mais moi, j'ai une petite question à vous poser, Christophe. Vous dites que vous avez fait le tour des ophtalmos du Gabon, la 12. Pourquoi ? Pourquoi vous avez vu autant de spécialistes ? Vous ne faites pas confiance à celui que vous avez vu ? Vous avez des problèmes au niveau de ce diagnostic ?
Non, madame. C'est-à-dire, vous savez, quand on cherche la santé, on est obligé de faire plusieurs pistes. Hein ? Parce que, bon, j'ai un médecin traitant, mm-hmm. mais quand il y a, par exemple, des caravanes médicales...
Oui, je comprends, itinérantes qui viennent vous voir. Oui,
voilà.
Oui.
Mm-hmm. Voilà, je vais... Bon, si un ami me dit, ben, tiens, il y a un autre ophtalmo là-bas qui m'a soulagé et qui m'a calmé, je vais voir, mais je garde mes médecins traitants.
D'accord. Voilà. Vous en
Donc,
avez
je
un fixe.
Avec mes médecins traitants. Très bien. Depuis 2003.
Très
et
bien.
De temps en temps, je vais voir les autres sans laisser mon traitement et sans abandonner mes premiers médecins.
Oui, c'est important pour bien suivre votre cas. Alors, professeur Jean-Philippe Nordman, Christophe qui s'interroge sur cette intervention. En gros, est-ce que c'est dangereux ? Et puis, est-ce que c'est le moment ?
Je vois que Christophe a vu beaucoup de médecins et qu'il a bien analysé la situation. Alors, il a finalement, l'ensemble des ophtalmologistes, il y en a qui sont pour l'intervention et d'autres contre, mais chacun a des arguments. Alors, est-ce que c'est dangereux ? En réalité, non. L'opération n'est pas vraiment dangereuse. Elle est en général bien faite et on ne risque pas, pendant l'opération, d'avoir des complications importantes. Mais ce qui n'est pas faux non plus, c'est que les patients africains ont tendance à avoir une meilleure cicatrisation. Alors, c'est peut-être une bonne chose dans la vie de tous les jours, mais là, on ne tient pas spécialement à ce que ça cicatrise trop, puisque l'opération consiste à créer une petite soupape entre l'intérieur et l'extérieur de l'œil. Donc, si on cicatrise trop, eh bien, on rebouche trop vite l'opération. Et c'est ce qui a été dit. Et en effet, plus on est jeune, plus on cicatrise vite, et donc plus il y a de risques. Alors, il y a une sorte de balance. Est-ce que il vaut mieux attendre ou ne pas attendre ? Et là, je dirais que, dans votre cas, Christophe, il vaut mieux pas attendre. Parce que vous nous dites vous-même que vous êtes en train de perdre ce qui reste de votre vue. Donc, attendre plus longtemps, ça sera un moment où vous aurez encore plus perdu. Et puis 55 ans, c'est vrai, c'est très jeune comme vous le dites, et ça me fait plaisir parce que
ouais, c'est bien à peu ça, près c'est une très bonne remarque.
Notre 55 situation, ans, c'est jeune. Voilà. Bon, donc c'est très bien, c'est très jeune, mais à mon avis, on peut quand même y aller. On utilise souvent un anti-cicatrisant pour éviter que ça ne cicatrise trop vite. Mais je dirais que dans votre situation où réellement il y a un risque de perdre la vue encore plus importante, vous êtes très gêné mais vous voyez encore, je crois que c'est le moment de le faire. Certains se disent que c'est déjà trop tard, c'est pour ça que certains vous le proposent pas, mais je pense quand même que si vous n'avez jamais été opéré, il faut le faire parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité dans le traitement du glaucome que soit l'écolyre, soit le laser, soit la chirurgie.
Ce que vous avez déjà fait, vous êtes donc à la dernière option.
Voilà. Et même dans cette dernière option, sachez quand même qu'il y a plusieurs possibilités encore. Ça veut dire que même si la première opération ne marchait pas, il y a encore d'autres solutions après. D'autres types d'opérations que l'opération classique. Donc, on n'est pas à la fin de, des possibilités de traitement pour vous.
Voilà pour cette réponse, Christophe. Excellente journée au Gabon. Nous partons pour le Bénin. Retrouvez Guillaume qui est à Cotonou. Bonjour Guillaume.
Oui, bonjour madame.
On vous écoute, le professeur Nordman vous écoute.
Oui, bonjour professeur. Voilà, moi je suis un gros glaucomateux, d'un certain âge avancé, et ça fait une quinzaine d'années que je traite ce glaucome. Eh bien, ben, depuis un an et demi, deux, ben, je ne sais plus voir clairement, je suis dans un flou total, dans un brouillard. Alors, j'étais traité pendant longtemps, en 15-20, par le professeur Amar, qui est décédé, et c'est madame Pascale Amar qui m'a suivi. Mais depuis 2 ans, je ne suis plus à Paris. Alors, est-ce qu'il y a un nouveau médicament, une nouvelle formule pour soulager un peu les patients, les glaucomateux, pour qu'ils puissent percevoir, au moins se diriger, être plus ou moins autonomes? C'est ma question. Et aussi, est-ce qu'il y a une possibilité d'une intervention chirurgicale pour les glaucomateux? Voilà, ce sont ces questions qui me perturbent un peu. Bon, moi, j'ai assez longtemps fréquenté le centre d'ophtalmologie et je m'en tiens au traitement que je suis en ce moment. Je suis une goutte matin et soir d'Azarga. Une goutte ravaltant le soir. Voilà ma question, professeur. Je vous remercie.
Guillaume, donc, qui utilise des collyres. Derrière la question de Guillaume, c'est la question, est-ce que c'est réversible? Est-ce qu'il y a un médicament, en fait, pour soigner? C'est bien ça, sa question.
Pour guérir, on espérerait, en effet, avoir un traitement qui permette d'aller dans l'autre sens, comme un peu après la cataracte, où on voit mieux qu'avant. Malheureusement, il n'y en a pratiquement pas à l'heure actuelle parce que, en fait, ce qui est touché dans l'œil, c'est la partie en arrière, la rétine, et c'est un petit peu comme une partie du cerveau. C'est comme quand on fait un accident vasculaire cérébral, on récupère pas vraiment, on stabilise. Alors, ce qu'a dit Guillaume est très juste, c'est que pendant longtemps, le glaucome, on s'en rend pas compte, et tout d'un coup, c'est brutal. Alors, c'est pas brutal, c'est que ça atteint la partie centrale et que cette évolution qui est lente, et ben, à un moment, quand ça atteint le centre, on a l'impression que c'est assez brutal. C'est pour ça qu'il est tellement gêné. Alors, je crois que le traitement qu'il prend, il prend 2 gouttes et même dans une des gouttes qu'il a proposé, il y a 2 composés, donc il y a déjà le traitement maximal. Mais on se retrouve dans une situation où s'il n'a jamais été opéré, là encore une fois, on peut l'envisager. Et là, en l'occurrence, ça va dépendre de la pression dans l'œil. Si tout est bien stabilisé avec son traitement, est-ce que ça vaut la peine d'opérer ou pas? C'est à voir. Mais s'il a une pression vraiment élevée malgré le traitement, comme on sait que s'il a une pression élevée, ça va de toute façon s'aggraver, ben, il vaut mieux tenter l'opération.
Même s'il dit qu'il est dans une phase finale de cécité, c'est quelque chose qui est envisageable.
Certains médecins pensent que c'est déjà un petit peu tard pour envisager une opération parce que peut-être que ça va continuer d'évoluer. Mais je pense qu'il vaut mieux avoir une fois tenté, si de toute façon les choses doivent s'aggraver, d'avoir tenté le tout pour le tout.
Alors,
il y a quelques fois, donc là on peut avoir un peu de chance, des situations où le glaucome s'améliore. Quand la tension est très élevée, où la vision réellement s'améliore après. Pour des raisons un peu compliquées, l'œil fonctionne mieux de manière générale. Donc, je dirais que quitte à avoir une telle situation, moi j'aurais tendance au moins une fois à envisager une intervention.
Voilà Guillaume pour cette réponse. On vous souhaite une bonne journée à Cotonou. On va partir pour le Cameroun, pour Bafoussam, où l'on retrouve Ismaïla. Bonjour Ismaïla.
Bonjour Caroline.
On vous écoute, le professeur Norman est à votre écoute.
Et bonjour professeur.
Bonjour Ismaël.
Ma maman est glaucomateuse depuis 20 ans. Après cela, 10 ans, on lui a fait une opération. une opération chirurgicale. Et 2 ans après, on a détecté un diabète. Et c'est la 2e fois que je vois ce qu'après une opération, on détecte un diabète après. Je ne sais pas si cela est dû aux médicaments qu'elle prend ou bien je voulais savoir s'il y a un lien entre les deux.
Question concrète d'Ismaïla sur cette déficience visuelle et ce diabète, est-ce qu'il peut y avoir un lien ?
Alors, premier point, ça n'est absolument pas la conséquence des traitements proposés. Ça ne peut pas exister, ça. En revanche, quand on a un glaucome, ça veut dire qu'on a un déséquilibre au niveau de l'œil. Et souvent, les patients qui ont un glaucome ont d'autres problèmes par ailleurs, en particulier un problème de déséquilibre de la tension artérielle, donc ils ont souvent une hypertension artérielle, et souvent aussi un diabète parce qu'il y a un déséquilibre de la glycémie. Donc, il y a une sorte de lien dans le sens où ça arrive souvent que les patients glaucomateux aient aussi un diabète, et en l'occurrence, dans les deux cas dont vous parlez, le diabète est arrivé après, mais c'est pas en rapport avec l'opération, c'est plutôt en rapport avec une santé un peu déficiente sur ces deux points.
On va dire que c'est pas une cause à effet, c'est pas les deux sont pas forcément l'un n'a pas provoqué l'autre.
Absolument.
C'est
juste en même temps. D'aucune façon, le glaucome, ni l'opération du glaucome, ni les traitements médicaux n'ont provoqué le diabète.
Ismaïla, vous avez une autre question ?
Non, madame, merci Caroline.
Merci à vous et très bonne journée à Bafoussam. On part pour le Tchad, pour la ville de Sarre, où Doukam est en ligne. Bonjour Doukam.
Bonjour Caroline, bonjour professeur Norman.
On vous écoute.
Ok, en fait, moi j'ai appelé pour témoigner par rapport à mon cas et en même temps poser 2 questions au professeur. Mmh. En termes de témoignage, j'ai dit tout à l'heure au standard que moi j'ai connu un accident de circulation en moto en juin de l'année dernière.
Oui.
Et au moment de la prise en charge médicale, puisque j'avais des plaies à l'œil, les médecins ont dû diagnostiquer un glaucome. Et depuis lors, ça a évolué très très vite et j'ai même dû connaître une opération chirurgicale en septembre dernier. Et là, la vie fait que baisser au point où maintenant je suis totalement immobilisé à la maison. Je ne peux pas utiliser un document ni l'ordinateur. J'ai, en toute logique, dû perdre mon travail. Donc c'est assez déprimant et je voudrais poser une question au professeur par rapport à cela.
On vous écoute.
Ok, avant de poser la question, les médecins, les différents médecins que j'ai vus ont dit que c'est le nerf optique qui est en voie de destruction. Mm-hmm. Et que pour certains, ça va être vraiment irréversible. Donc je voudrais demander au professeur de façon précise, est-ce qu'il n'y a pas de possibilité de soins, soit au Tchad ou ailleurs, quand le nerf est attaqué gravement comme c'est le cas dans ma situation?
Cette question de Doukam, il est jeune, hein, 35 ans, un accident de la circulation, on lui dépiste ce glaucome, et puis une opération a priori qui n'a pas très bien marché. Qu'est-ce qu'on peut lui dire aujourd'hui? Parce que ça a un impact très fort sur sa vie quotidienne, plus de travail et ce sentiment d'être un petit peu à part. Qu'est-ce qu'on peut lui dire?
Oui, donc au départ, j'avais pas très bien compris. C'est pas l'accident qui a déclenché le glaucome. C'est probablement que vous aviez déjà un glaucome assez avancé et que du coup, vous avez eu cet accident parce que vous voyez mal. Et en effet, vous êtes atteint d'un glaucome qui vous a touché très jeune et qui vous gêne énormément. Et les médecins vous ont dit que vous aviez le nerf optique abîmé, c'est-à-dire c'est ça le glaucome, c'est le nerf optique qui est abîmé, qui trouble la vision. Alors, quelle solution y a-t-il? Pour l'instant, on peut essayer de se faire aider par des aides optiques, aller prendre des conseils. Bon, je ne sais pas si ça existe vraiment dans des centres de basse vision qui vous permettent d'utiliser au mieux votre vision. Et on peut apprendre pas mal de choses comme ça. Par exemple, un patient glaucomateux, il n'a pas tellement tendance à regarder, bouger assez les yeux pour repérer tout dans le paysage, alors qu'il ne voit que dans la partie centrale de sa vue. Donc, en faisant ça, en faisant cet effort de balayage des images, on arrive presque à avoir à nouveau une vision bien meilleure.
On dirait que c'est une sorte de rééducation à l'environnement visuel.
Exactement, parce que spontanément, c'est pas naturel de faire ce mouvement-là. Donc là, il y a tout ce côté-là. Et puis, alors, on peut espérer quand même l'existence de traitements qui vont améliorer réellement la fonction visuelle, des neuroprotecteurs, des médicaments qui vont agir au niveau de la rétine et du nerf optique lui-même. Mais pour l'instant, c'est essentiellement à travers tous les traitements qui font baisser la tension qu'on va y arriver, et à travers cette rééducation, en effet.
Être capable de mieux appréhender son environnement, peut-être dans des centres pour malvoyants, s'il y a ça à côté de chez vous, d'où quand peut-être vous renseigner auprès des services, des ophtalmos, qui pourront éventuellement vous donner des relais ou des adresses.
Voilà, ce sont des centres, ce qu'on appelle de basse vision, c'est-à-dire les gens ne restent pas là, mais on leur donne des conseils, par exemple, quel type d'écran utiliser, quel type de lunettes polarisées ou pas à faire, tout un ensemble qui permet d'améliorer votre situation.
Voilà, Doukam, on vous souhaite en tout cas beaucoup de courage, très bonne journée au Tchad. On poursuit cet échange, professeur Jean-Philippe Nordman. On a vu justement ces questions des différents types de glaucome, on va dire aussi d'une certaine manière en fonction des différentes régions du monde. Mais il y a une question très importante, c'est la possibilité d'avoir accès aussi à ces traitements. Quand on parle de laser, peut-être moins de chirurgie, mais en tout cas de laser, c'est pas accessible partout dans le monde.
Oui, les traitements médicaux qui doivent être donnés à vie ne sont pas forcément accessibles financièrement, ce d'autant plus que j'ai constaté qu'ils n'étaient pas moins chers ailleurs qu'en France. C'est-à-dire que c'est plutôt plus cher en Afrique, par exemple, qu'en France, les mêmes traitements. Donc, même les génériques.
Et quand ce glaucome est diagnostiqué, justement, quand on a par exemple des collyres, on imagine que c'est quotidien. On peut dire que le glaucome, c'est une maladie chronique de l'œil.
Absolument, ça nécessite de mettre au moins, la plupart du temps, une goutte le soir dans chaque œil de manière quotidienne.
Et au niveau du suivi, quel conseil, quand le glaucome est diagnostiqué, aller voir un service d'ophtalmologie tous les combien?
Alors, si tout va bien, tous les ans. Mais bon, disons tous les 6 mois au début pour savoir si tout est bien équilibré. Et après, on fait un contrôle une fois par an avec les examens. Mais le problème, c'est que c'est très contraignant de prendre une goutte tous les jours dans les yeux. Et on sait bien que une partie importante des patients a du mal à le faire, ou à oublier, ou ça coûte cher. Et donc, si c'est pas fait vraiment régulièrement, les choses peuvent s'aggraver.
Et professeur Jean-Philippe Nordman, il y a des gens qui cumulent, qui vont à la fois avoir une déficience visuelle, type myopie, hypermétropie, et en même temps un glaucome, c'est tout à fait possible?
Oui, c'est possible. Myopie, hypermétropie, ça se corrigera assez facilement avec des lunettes, et un glaucome, bon, voilà, par ailleurs. Et puis, on peut aussi avoir, en effet, un problème de cataracte et de glaucome. Mais là, c'est pas très grave d'avoir la cataracte en plus, parce qu'elle va se gérer exactement comme les autres. C'est-à-dire, on fera une opération de la cataracte et on va récupérer de la vue, et le glaucome ne va rien changer, ne va pas aggraver la situation.
Au niveau de la recherche, on a entendu, hein, puisqu'on a compris que quand la baisse de l'acuité visuelle était là, eh bien, c'était quasiment irréversible. Beaucoup de questions forcément des auditeurs, parce que c'est porteur d'espoir sur cette recherche. Est-ce qu'il y a des pistes prometteuses?
Il y a beaucoup de pistes dans la recherche sur le glaucome. Et puis des pistes qui sont déjà en pratique utilisables. Alors par exemple, il y a eu, si vous voulez, sur le plan diagnostique, des nouveaux appareils qui s'appellent l'OCT angiographie, qui permet de voir les petits vaisseaux du nerf optique pour voir si sont abîmés ou pas abîmés. Mais sur le plan thérapeutique, il y a des nouveaux médicaments qui existent déjà, qui ne sont pas encore commercialisés en Europe, mais qui le sont déjà aux États-Unis et qui sont complémentaires des autres. Alors, ils ne sont pas plus puissants que les autres, mais c'est des nouvelles familles de médicaments, c'est-à-dire qu'ils agissent à un endroit totalement différent des autres. Ça s'appelle les rokinases, en l'occurrence, c'est le nom général. Et puis, par exemple, actuellement, il y a des nouveaux techniques chirurgicales, des nouvelles techniques chirurgicales avec des microtubes qu'on appelle les MIGS, c'est-à-dire les... Bon, peu importe ce que ça veut dire que c'est peu agressif, c'est des tout petits tubes qu'on met entre l'intérieur et l'extérieur de l'œil et qui permettent parfois, chez des gens qui ont déjà été opérés plusieurs fois, d'arriver à régler leurs problèmes alors qu'avant on ne le pouvait pas. Donc déjà en pratique, je dirais, par rapport à il y a peut-être 2 ans, il y a d'importants changements encore. Je dirais que le glaucome est une maladie qui est malheureusement fréquente, mais le seul avantage de ça, c'est qu'il y a beaucoup de recherches qui est fait et beaucoup de progrès qui sont faits régulièrement.
Alors on va partir tout de suite autre illustration, on va partir tout de suite pour le Cameroun.
RFI.
Pour vous retrouver, professeur Assumpta Bella, bonjour.
Bonjour, Madame Paris.
Professeur Bella, vous êtes la chef du service d'ophtalmologie de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé au Cameroun, coordinatrice du programme national de lutte contre la cécité. Alors, on l'a bien compris depuis le début de cette émission, importance d'un diagnostic précoce, mais c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de symptômes, de douleurs. Est-ce que vous disposez, professeur Bella, de chiffres qui concernent justement le glaucome au Cameroun?
Alors, je commence par dire bonjour à professeur Norman, que j'ai entendu tout à l'heure, et à tous les auditeurs de RFI. La problématique du glaucome en Afrique est vraiment quelque chose de sérieux et de compliqué. Comme cela a donc été dit, c'est une maladie qui n'a pas de symptômes. Et nous, en Afrique, on a l'habitude d'aller à l'hôpital que quand on a mal. Donc, vous comprenez que la plupart des cas que nous allons diagnostiquer, c'est des personnes qui ont déjà un stade avancé de la maladie. Mais pour dire brièvement, les patients, on a eu une étude qui a été faite dans un grand hôpital du Cameroun. Sur 100 patients qui consultaient en ophtalmologie, pratiquement 6 avaient le glaucome. Donc, c'est une pathologie qui est fréquente. Et l'une des caractéristiques en Afrique, c'est que c'est une maladie qui commence tôt. Donc, on trouve des jeunes gens avec un glaucome déjà évolué et avec des chiffres très élevés. Donc, c'est vraiment un problème dans notre zone.
Alors, on comprend donc des patients qui arrivent à un stade assez avancé. Qu'est-ce que vous pouvez leur proposer du côté de la prise en charge, professeur Assoum Tabella?
Alors, au niveau des traitements, il faut dire que nous utilisons pratiquement les mêmes molécules qui sont sur le marché en Europe, avec cette différence, avec cette difficulté qu'a souligné le professeur Norman, c'est le prix. Vous avez un patient qui ne se plaint de rien, vous lui dites qu'il va perdre sa vue, vous lui mettez, vous prescrivez un traitement qui va coûter un tiers ou la moitié de son salaire. Et oui, il est efficace, mais au bout d'un mois, il va revenir vous dire qu'il ne peut pas suivre. Et donc, la deuxième option, c'est souvent de proposer une intervention chirurgicale. Et même cette intervention, nous avons du mal à la vendre parce que justement, le patient ne se plaint de rien. Or, le traitement, il a des complications. Donc, c'est assez difficile dans notre contexte. Donc, mais on commence souvent par le traitement médical.
Avec, oui, bien sûr, on comprend, dans le budget familial, il y a d'autres priorités pour ces patients. Est-ce que le public est informé, justement, quand vous leur dites, voilà, vous avez la vue qui baisse parce que vous avez un glaucome? Est-ce que les patients savent d'emblée de quoi vous parlez, professeur Bella?
Alors, autant dans nos tribus, nous connaissons la cataracte, nous connaissons la conjonctivite, le glaucome n'est pas connu des populations. Parce que je pense justement, comme il n'y a pas de symptômes, ça passe souvent inaperçu et on se retrouve au stade de cécité. Donc, ce qu'on essaie d'imaginer, c'est d'expliquer au malade qu'il a une maladie qui est en train de voler sa vue. Donc, il faut mettre en place les stratégies pour bien leur expliquer de quoi il s'agit et notamment le risque de retrouver la même maladie dans la descendance. Donc, ce que nous faisons le plus souvent, c'est quand on a trouvé un cas, c'est d'inciter les membres de la famille à faire le dépistage aussi. Et à l'occasion du mois de mars comme cette année, le ministre de la Santé a demandé à toutes les structures qui font le soin oculaire de faire un dépistage systématique gratuit du glaucome. C'est ce que nous essayons de faire à peu près chaque année pour dépister la maladie au début et pouvoir la prendre en charge.
Alors, information, pédagogie, mais il y a un frein à tout cela. Hein. C'est l'accès à l'ophtalmologie, à cette spécialité. On a bien compris, pour prendre la tension oculaire, il faut ce fameux fauteuil de l'ophtalmo, cet appareil un petit peu compliqué. Beaucoup de spécialistes au Cameroun?
Alors, nous sommes pas encore une centaine sur toute la population et avec une inégalité de répartition géographique, c'est-à-dire 80% à peu près des spécialistes se retrouvent dans les deux principales villes que sont Douala et Yaoundé. C'est vrai que c'est pas propre à l'ophtalmologie, c'est comme ça pour la plupart des spécialités. Donc les personnes dans l'arrière-pays ont du mal encore à avoir accès aux diagnostics et aux technologies de pointe pour pouvoir se prendre en charge. C'est un réel problème. C'est vrai que localement, nous formons des infirmiers spécialisés en ophtalmologie qui nous aident à régler un certain nombre de problèmes, mais on a encore du mal. Les populations qui sont retirées ont des difficultés d'accès aux soins, c'est vrai.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions, professeur Assoum Tabella. Je rappelle que vous êtes chef du service d'ophtalmologie de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé au Cameroun.
RFI à Yaoundé. 105.5 FM.
Alors, on aborde la dernière partie de cet échange avec vous, professeur Jean-Philippe Nordman. On a bien compris avec l'intervention de votre consoeur du Cameroun, diagnostic compliqué quand on n'a pas mal, hein, pour parler crûment, difficile aussi de se faire soigner quand justement on ne souffre pas et que ce traitement coûte cher. Donc, il faut vraiment faire passer le message. Attention, le glaucome, on ne le sent pas, mais il peut être bien là, avec d'importantes conséquences pour la santé et la vie en général. On a entendu tout à l'heure cet auditeur qui ne pouvait plus travailler, qui ne pouvait plus circuler. Donc c'est important de se prendre en charge de façon précoce.
La formation des patients est capitale et le professeur Bella a tout à fait bien fait de souligner que maintenant il faut que partout, la population soit au courant. Parce que si elle n'est pas au courant, d'une part, elle ne se fait pas soigner, et puis deuxièmement, aussi du côté de l'ophtalmologiste, quand elle va voir, une personne va voir l'ophtalmologiste et que cet ophtalmologiste ne va pas améliorer sa vision, juste arrêter l'évolution, bon, ben, ça sera pas tellement positif pour l'ophtalmologiste. Mais à partir du moment où la population comprend, les gens comprennent qu'il faut s'en occuper et que quand on opère ou quand on soigne, s'arrête l'évolution, c'est beaucoup plus simple. Et c'est la raison pour laquelle des spécialistes de glaucome, il y en a surtout dans des endroits où la population, où les gens sont au courant du glaucome. C'est-à-dire, ils ont conscience qu'ils vont aller voir quelqu'un qui va s'occuper d'eux, mais qui va pas les guérir comme de la cataracte. Donc, je pense que l'information des gens est vraiment capitale. Et le plus les patients seront réellement conscients des problèmes, c'est-à-dire, comme vous venez de le dire, prendre la tension oculaire à un certain âge, plus jeune en Afrique certainement, parce que la pathologie commence beaucoup plus tôt, là, il y a plus de chances vraiment d'arrêter la situation. Dans tout ce dont nous avons parlé, malheureusement, on avait seulement des cas qui n'allaient pas. C'est peut-être tout à fait usuel. Néanmoins, dans l'immense, immense majorité des cas, avec un traitement en collyre, on arrive à s'en sortir très bien. Et on empêche que le glaucome n'évolue, voire en cas de chirurgie aussi. Il y a vraiment des patients qu'on opère 20 ans plus tard, ils sont comme il y a 20 ans, c'est-à-dire ça n'a plus évolué. Il n'y a aucune fatalité à ce que le glaucome évolue.
Oui, pour ceux, il faut qu'il y ait eu quand même le dépistage suffisamment tôt.
Absolument, il faut qu'il y ait eu ce dépistage tôt, mais donc ça sert vraiment à quelque chose, ça empêche l'évolution du glaucome que de le traiter et de le dépister de manière précoce. Ouais.
Mais vous disiez tout à l'heure, par exemple, la cataracte, hein, pour parler simplement, ça se soigne bien, c'est plus compliqué, même quand on est ophtalmo, d'annoncer à quelqu'un qu'il souffre d'un glaucome que d'une cataracte, c'est évident. Donc peut-être aussi, tout à l'heure, votre consoeur du Cameroun le disait, la difficulté d'entendre ce que dit le médecin pour prendre ce traitement aussi de la part du patient.
Tout à fait, c'est vraiment difficile. Le professeur Bella l'a tout à fait souligné, c'est-à-dire que le patient se plaint de rien, n'a pas mal aux yeux, voit bien, et on lui propose de dépenser de l'argent pour se traiter avec des collières qui risquent de piquer un peu les yeux. C'est très difficile à accepter, et si le patient lui-même n'a pas connaissance de ça, c'est difficile. Alors moi j'ai vu quand même ces 15-20 dernières années un immense progrès dans la connaissance dans l'ensemble des pays africains, d'Afrique du Nord ou d'Afrique centrale, de la connaissance du glaucome. C'est-à-dire des patients, il y a 20 ans, personne ne s'intéressait à ça. Maintenant, les gens viennent parfois en disant « je voudrais te dépister ». Donc, il y a réellement un progrès qui est déjà en cours et qui permet d'espérer que cette situation va peu à peu donc être gérée de mieux en mieux. Mais il faut aussi savoir qu'en France aussi, hein, on a quand même un certain pourcentage de patients qui viennent quand la vue baisse parce qu'ils ne s'en sont pas occupés auparavant.
Et justement, pour un certain nombre de maladies, on a parlé de ce facteur, professeur Nordman, de l'âge qui est très important. Pour un certain nombre de maladies, on va dire qu'il y a cette fameuse pendule des 50 ans où il y a un dépistage systématique. Je pense par exemple à toutes les campagnes de prévention du cancer du sein pour les femmes, le cancer colorectal pour l'ensemble de la population. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir un dépistage systématique du glaucome justement pour pouvoir prendre en charge au plus tôt les cas et éviter donc les conséquences tragiques pour la vue ?
C'est certainement une bonne idée, c'est ce qui est proposé d'ailleurs. Maintenant, il y a ce problème d'accès à l'ophtalmologiste qui n'est pas forcément simple d'ailleurs.
On en parle régulièrement dans l'actualité.
Voilà. Avec la Société française du glaucome, on a fait des campagnes de dépistage. Alors, c'est très bien. Alors, en même temps, ça crée un certain besoin de la population qui se dit, oui, allons voir l'ophtalmo. Et quand les délais sont jusqu'à parfois plusieurs mois, 6 mois, voire même plus dans certaines régions en France, ça crée souvent des difficultés. Donc, oui, c'est certainement une bonne idée, parce qu'il n'y a finalement pas tant que ça d'éléments à contrôler. Il y a le cholestérol, le diabète, l'hypertension, et puis le cancer du sein, le cancer colorectal. Et après, il n'y en a pas énormément d'autres. Donc ça vaut vraiment la peine d'aller jusqu'au bout dans ce dépistage.
Et dans cette prévention, merci beaucoup pour toutes ces explications, professeur Jean-Philippe Nordman. Je rappelle que vous êtes chef de service d'ophtalmologie au Centre National d'Ophtalmologie des 15-20 à Paris, professeur également directeur du Centre du Glaucome.
Priorité santé sur RFI.
Et nous parlons à présent de l'activité physique et de la santé en votre compagnie. Docteur Jean-Marc Sen, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Aujourd'hui, on va parler de la cellulite. Comment le sport peut-il aider à lutter contre la cellulite?
Eh bien, Caroline, la cellulite, c'est une variation physiologique de la répartition de la graisse. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire. Et cette graisse est augmentée sous la peau, au niveau de l'hypoderme. On voit ça au niveau des cuisses, des fesses, des hanches. Et la peau va avoir un aspect capitonné. On parle de peau d'orange. Alors, cette cellulite ne doit pas être confondue avec les graisses de surpoids, ni des problèmes variqueux, qui sont vraiment différents. Et on sait que ce qui favorise la cellulite, c'est, un, la sédentarité, l'obésité, bien sûr, la surcharge pondérale, la mauvaise circulation sanguine, le stress, et puis le dérèglement hormonal, c'est tout ça. Et ben, tout ça peut être traité par l'activité physique, parce que c'est un excellent remède, puisque ça va, c'est vrai, brûler les graisses, quand on va faire du sport, ça renforce le système circulatoire, c'est déstressant, le sport, et puis c'est aussi une méthode de régulation du système immunologique et hormonal. Donc, on peut dire que l'activité physique, c'est vraiment le meilleur moyen de lutter contre la cellulite.
Alors, est-ce qu'on peut même dire qu'il y a certains sports qui ciblent particulièrement la cellulite, quoi, des sports anti-cellulite?
Bah oui, ceux qui vont favoriser les dépenses énergétiques, par exemple la marche lente ou la marche rapide avec ou sans bâton, ça c'est une très bonne chose, et puis ça va aussi stimuler le retour veineux. L'aquacycling aussi, c'est-à-dire tout ce qui va être dans l'eau un petit peu. Vous savez, si on a un vélo dans l'eau et puis on pédale comme ça, ça c'est une très bonne chose. La marche aquatique aussi, bien évidemment, ça va diminuer aussi les chocs. Le jogging à faible vitesse, on parlait de la marche rapide ou le jogging à faible vitesse, là aussi sur sol tendre, c'est quelque chose qui peut être tout à fait correct. On peut faire de la corde à sauter. Et voilà, la corde à sauter, effectivement, c'est une bonne façon de stimuler le retour veineux, de muscler, de brûler les graisses, ou le trampoline, pour ceux qui préfèrent, évidemment. Et puis aussi, on pourra faire des exercices comme de l'aviron ou du rameur en salle. Tout cela va être tout à fait bénéfique, à condition, bien sûr, de le réaliser pendant plusieurs dizaines de minutes pour pouvoir vraiment avoir cette dépense énergétique qui soit suffisante. Et en faisant tous ces sports, évidemment, la silhouette va absolument s'affiner.
Voilà du côté de l'activité sportive, mais au-delà, qu'est-ce que l'on peut faire justement pour essayer de se débarrasser de la cellulite?
Bon, alors, évidemment, associé à ça, il faut avoir un équilibre alimentaire. Il faut faire attention, la cellulite ne réagit pas bien au régime. Donc, il ne faut pas du tout faire un régime draconien, diminuer son apport énergétique de manière trop sévère, parce que ça ne marchera pas. Il n'y a pas non plus d'aliment miracle qui va pouvoir faire disparaître la cellulite, tout ça n'existe pas. L'autre chose qui peut être fait aussi, c'est d'améliorer tous les moyens qui permettent d'améliorer la circulation veineuse. Par exemple, les contentions pendant l'effort ou après l'effort, qu'on peut utiliser justement avec des bas de contention, ça peut être quelque chose qui peut être très bien. Le fait d'utiliser le froid aussi, faire des bains froids, ça stimule également la circulation, ou l'alternance entre les bains froids, les bains chauds, ça aussi c'est quelque chose qui peut être tout à fait intéressant. Et puis le fait de faire des massages, des drainages lymphatiques, ça aussi par le palpé-roulé, normalement tout ça doit absolument aider à faire diminuer cette cellulite.
Satanée cellulite. Merci beaucoup docteur Jean-Marc Sen. Je rappelle que vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui, chaque jour, fabrique, réalise votre émission. C'est Toussaint Maquet, Louise Cadélec, Fabien Munieret, aujourd'hui Laurence No au téléphone. Demain, dans Priorité Santé, eh bien vous retrouverez le docteur Catherine Solano, sexologue. On attend, bien sûr, vos questions. Le thème de ce jeudi, ce sera le désir. Témoignages, messages sur notre page Facebook. Et bien sûr, appelez-nous, le numéro 33 84 22 75 75. On se retrouve demain.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Comme les brillants entrepreneurs, profitez d'une assurance épargne et réalisez vos projets en toute assurance. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.